طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فيكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل وبياكم en cette soirée du mercredi 26/11/1431 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 3 novembre 2010 بإذن الله سبحانه وتعالى. Avant de passer aux questions-réponses, inshallah ta'ala, nous allons lire toutefois certaines fatwa du cheikh Mohamed Ali Firkous, hafidhahullah, un homme de science d'ici d'Algérie, très connu dans le monde musulman. Nous avons déjà lu une fois quelques fatwa de lui. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, je vais en lire quelques-unes بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. إذ إذا أقيمت الصلاة يخرج من النافلة أو الفرض بالتسليم أو يخرج، كما خرج ذلك الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح 4 ركعات. دونك quand quelqu'un est en train de prier la nafila et par exemple il entend, par exemple il est dans la mosquée en train de prier la nafila, ensuite il entend l'iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jusqu'à Qam Salat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans la prière obligatoire. Et vous connaissez le hadith qui dit que ida uqimat salat fala salata illa al-maktouba, authentique. Donc le hadith dit que si jamais la prière tuqam, c'est-à-dire, place, on va la faire, donc il a dit que il n'y a plus de salat, il y a seulement 7 salats que l'imam va faire avec les gens. Donc il n'y a plus de nafila. Donc on doit quitter la nafila. Mais est-ce qu'on doit la quitter en disant salam alaykoum, ou bien on la quitte sans teslim? Ceux qui ont dit on la quitte sans teslim, ils ont dit parce que le hadith a dit que ida uqimat salat, il n'y a plus de nafila. Et s'il n'y a plus, ça veut dire que tu es dans le vide. Tu es en train de te fatiguer pour rien. C'est pas la peine de dire salam alaykoum, tu n'as plus de salat. Elle est annulée d'elle-même. Et ceux qui ont dit que non, il faut sortir avec un salam. Il faut dire salam alaykoum et aller vers la prière de l'imam. Ceux-là, yani le deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh ici, Mohamed Firkous, hafidhahullah. Il a dit non, il a dit il sort avec teslim. Et il a cité un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où quelqu'un, yani, qui faisait comme ça la salat, et quand il a quitté, la cité avec teslim. Il a dit donc, yani, on doit sortir avec teslim. C'est-à-dire en disant salam alaykoum. Tayyib, il dit aussi أصل العمل في البنوك وما شكلها حرام إلا أن يكون عن ضرورة. Il a dit le fait de travailler dans les banques et ce qui ressemble aux banques où il y a les intérêts, où il y a يعني, les intérêts, où il y a riba, l'usure, il a dit travailler dans ces institutions c'est haram. Il a dit sauf dans la nécessité. Il a ضرورة. C'est quoi la nécessité? Sauf s'il est dans la nécessité, et en plus de cela, dans son cœur, il est en train de détester ce travail. détester la situation dans laquelle il est. Raythama yuhassilu ala amalin akhar halal. C'est-à-dire qu'il est toujours là dans la banque le temps que يعني, il trouve quelque chose de halal. Ma'a badli juhud fi al-bahthi an halal. Tout en essayant bien sûr de frapper à toutes les autres portes du halal. Ce n'est pas يعني, comme quelqu'un qui va dire je suis dans la daroura, Allah ghalib, je n'ai pas trouvé et il ne bouge pas le petit doigt pour chercher le halal. Il dit Allah ghalib, c'est partout maintenant les banques et toutes les banques contiennent des intérêts. J'ai pas d'autre solution. Allah Ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans les corps et sans faire des efforts pour chercher le halal. Celui-là, il aura des péchés. Mais il a dit l'autre, non. Pourquoi? Parce que, premièrement, il est dans la daroura. Il n'a pas autre chose. Non, mais deuxièmement, il essaye à droite, à gauche. Il écrit aux sociétés, il met des annonces dans les journaux, il demande à des amis de trouver du travail et comme ça. J'ajouterai une autre condition que le chef n'a pas a omis de poser, c'est quoi? C'est de ne pas dire, Nam, je ne lâche pas ce travail jusqu'à ce que je trouve le même travail ou mieux. Ici, si je suis payé 500 euros, je ne lâche pas si je trouve un travail de 300 euros halal. Nam, il faut que je trouve 500 euros la même chose ou plus. Nam, ça c'est faux, Nam. Toi, ton but c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et un peu d'argent halal, Allah ta'ala va mettre la baraka mieux que des milliers d'euros, Nam, que tu as eu du haram. Et qui, Nam, tu vas payer pour eux yawm al-qiyama quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, autre chose, qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne la danse de la femme dans les mariages. La danse de la femme dans les mariages. Amma raqsul mar'ati amama ghayriha min nisa' al-muslimin ala waq'i ghina'in mubah. Il a dit, quant à ce qui est de la danse de la femme parmi les femmes musulmanes, sur un air de halal, c'est pas sur une chanson où il y a le haram. Non, c'est pas sur la musique et les instruments, etc. Mais sur un air, par exemple une chanson, ou une chansonnette, ou un nashid ou quoi, où c'est halal. C'est pas, il n'y a pas d'instrument de musique, et ce qu'on dit est halal. On n'est pas en train de dire des choses yani, obscènes et des choses qui ne sont pas bien. Il a dit, quant à la danse de cette femme parmi ces musulmans, فَإِنْ كَانَ الرَّقْسُ فِطْرِيًّا بِتَحْرِيكِ الرَّأْسِ وَتَلْوِيحِ الْيَدَيْنِ وَتَلْوِيحِ بِهَا وَخَالَ مِنْ هَزٍّ الْخُصُورِ وَالْأَرْدَافِ وَكُلُّ وَخَالَ مِنْ كُلِّ تَحْرِيكٍ يُثِيرُ النَّفْسَ وَيَجْلِبُ دَوَاعِيهَا دَوَاعِيهَا الشَّهْوَانِيَّةَ فَلَا أَرَى مَانِعًا فِي جَوَازِهِ. Il a dit, hey, si maintenant la danse de cette femme est d'une façon naturelle, hein, en bougeant la tête, hein, par exemple de droite à gauche, en bougeant les mains et les bras, sans que il y ait quoi, sans que yani elle fasse des mouvements avec ses hanches, nam, et ses épaules, nam, de façon à ce que ça risque de quoi, de yutir nafs, ça risque de yani de faire bouger, disons, nam, la shahwa, nam. Il a dit, dans ce cas, ça devient haram, sinon, il a dit, c'est halal. Si elle danse d'une façon naturelle, naam, en bougeant seulement la tête et les bras, naam, et les pieds bien sûr, mais d'une façon naturelle, sans avoir recours à ses hanches, ni encore à ses fesses, bien sûr, naam, il a dit, d'une façon qui yani, ne fait pas bouger, naam, yani, il a des choses dans le cœur, il a dit dans ce cas, inshallah ta'ala, c'est halal si c'est entre les, yani, les femmes entre elles. Autre chose, en ce qui concerne, yani, ce qu'on appelle la nafaqa, yani, pour la femme. La nafaqa, c'est, disons, ce que l'homme donne à la femme, yani, comme nafaqa, ça veut dire il l'a nourri, il subvient à ses besoins, ses vêtements, etc. Naam, ce qu'on lui donne. Il a dit, لا يلزم النفقة على الزوجة إلا بعد الاستمتاع بها. ولهذا فلم ينفق عليه صلى الله عليه وسلم على عائشة في السنوات التي كان قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد. Il a dit, quand quelqu'un contracte, signe le contrat de mariage avec une femme, bien c'est elle qui signe avec lui. Il y a deux témoins, il y a ce qu'on appelle, yani, chez la plupart des gens, on dit le Fatiha. Ils ont fait le Fatiha. Même si ça ne s'appelle pas le Fatiha, mais maintenant qu'ils ont fait l'acte shar'i, il n'est pas obligé de dépenser pour elle. Pourtant, c'est sa femme. C'est sa femme, hein. S'il meurt, elle l'hérite. Ça, si elle meurt, lui, il l'hérite. Donc, c'est sa femme et c'est son mari. Malgré cela, il n'est pas obligé de dépenser pour elle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore consommé d'elle le mariage. Donc la dépense ou les dépenses sur l'épouse deviennent obligatoires à partir du moment où il consomme le mariage. S'il ne consomme pas, hein, il n'est pas obligé de quoi? De yani, dépenser pour elle. Dépenser pour elle. Donc vous comprenez bien que ce que dépense, même après le mariage, c'est en contrepartie, hein, de ce qu'elle lui donne comme halal, de ce qu'elle lui donne, elle, comme halal. C'est pour ça que une femme, par exemple, qui se refuserait à son mari, s'il l'appelle, et n'a pas bien sûr d'excuse, il peut ce jour-là ne pas la nourrir s'il veut. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas haram. Parce que lui, lui donne ces choses-là, la nourriture, les vêtements, etc., en revanche de ce qu'elle lui donne d'elle. Maintenant, elle ne veut pas lui donner, il a le droit aussi de la priver. C'est pour ça que, si jamais, par exemple, l'épouse va chez elle, sans demander la permission de son mari, elle va, par exemple, chez ses parents, passer la nuit. Naam. Ce jour-là, par exemple, naam, il peut, pourquoi? Parce que, premièrement, elle a fait un péché, sortir sans lui demander la permission, et deuxièmement, elle a fait quoi? Elle a fait annuler les dépenses pour elle ce jour-là. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il ne peut pas avoir d'elle ce qu'il veut, aller chez ses parents. Mais maintenant, si elle lui demande la permission, et elle va chez ses parents. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, elle n'a pas de péché pour être partie, mais elle a toujours perdu quoi? Elle a toujours perdu les dépenses de cette journée-là. Parce qu'il ne peut pas aussi profiter d'elle, elle n'est pas là. Vous comprenez? C'est pour ça aussi que certains savants ont dit, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, le contraire aussi est valable. Ils ont dit, maintenant, si l'homme maintenant ne veut pas aussi dépenser pour sa femme, nourrir, ni lui donner le nécessaire avec lequel elle vit. Il a dit, dans ce cas, elle aussi, elle peut se refuser de lui, ou bien à lui. Parce que ce qu'elle lui donne, c'est en contrepartie aussi des dépenses, etc. Non. Mais il faut, pour la femme, il faut qu'elle soit très prudente ici. J'ai dit pour vraiment, s'il ne lui donne pas vraiment le nécessaire. Ce n'est pas s'il ne lui achète pas la télé, ou là, il ne lui achète pas, je ne sais pas, des bijoux, ou là, il ne lui achète pas le maquillage, ce n'est pas ça. Il ne veut pas vraiment, il ne veut pas lui donner à manger. Ou elle est nue, il ne veut pas lui donner des habits, l'argent pour acheter des habits, ou là, il a mis le nécessaire. Ah. Une fatwa sur le vinaigre. D'après le cheikh, Hafidhahullah, il dit, il y a douze ou, istimalu al-khaldi, alladhi kana aslu khamran, walu bi'ilaj al-adami. Vous savez, en ce qui concerne le vinaigre, je ne parle pas du vinaigre qui est à base de citron. Le vinaigre qui est à base de vin. Dans ce vinaigre-là, il y a deux ou trois avis. Il y a l'avis qui dit qu'il est interdit à 100%. Il y a l'avis qui dit qu'il est halal à 100%. Et il y a l'avis du milieu qui dit quoi? Qui dit qu'il est halal si ce n'est pas l'être humain qui l'a fait. De lui-même, c'était du vin, de lui-même, khal. Il est devenu vinaigre. C'est pas l'être humain qui lui a mis des médicaments ou quelque chose comme ça. Non, de lui-même. Et il y a le quatrième avis, j'ai oublié de le dire, qui dit que c'est haram pour celui qui l'a transformé. C'est haram pour celui qui a transformé le vinaigre et le vin, il l'a rendu vinaigre. Et c'est halal pour celui, pour l'autre, yani, qui le consomme. Donc, des quatre avis ici, quel est l'avis de Cheikh Hafidhahullah? L'avis de Cheikh Hafidhahullah, c'est l'avis de qui dit que c'est halal dans tous les cas. C'est-à-dire que le vinaigre qu'on achète dans le supermarché CA, hein, qui est rouge comme le vin, vous voyez, hein, il a dit celui-là, il est halal parce que ce n'est plus un vin. C'est un vinaigre. C'est autre chose. Il a dit même si l'être humain, c'est lui qui l'a préparé. Wallah, c'est un avis bien sûr très connu. Hein. Une fatwa sur les parfums, il a dit, Hafidhahullah, wa yajuzu isti'malu at-tayyib al-muhtawi 'ala al-kuhul. Et il est permis d'employer les parfums qui contiennent de l'alcool à condition que ça ne dépasse pas 60%. Cheikh Al-Albani rahmoullah dit à condition que ça ne dépasse pas 50%. Et le cheikh ici dit 60%. Donc, nous, quand on achète un parfum, c'est toujours écrit sur la bouteille, sur le flacon. 40% d'alcool, 30%, 50%. Tout cela, c'est halal d'après le cheikh. Si ça dépasse 60%, alcoolisé à 60%, il a dit que c'était haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. En ce qui concerne le téléphone, le fait d'ouvrir ce qu'on appelle un taxiphone, il a répondu, parce que c'est halal ou haram, il a dit que cela dépendait, cela dépendait de pourquoi on l'utilise. Il a dit Il a dit, si c'est dans les grandes villes, dans les villes, ce n'est pas permis. Mais, si maintenant on va faire un taxiphone dans un petit village, dans un endroit isolé, où on peut contrôler, il a dit, dans ce cas, c'est permis. Dans ce cas, c'est permis. Il a dit, si c'est dans une grande ville, on ne contrôle pas ce qu'on va parler à l'intérieur, on va dire qui va contacter qui, il a dit, non, c'est pas possible. Et c'est haram. Wallah subhanahu wa ta'ala alim. Et une fatwa sur la barbe et le passeport. Je crois que chez vous, il n'y a pas ce problème, Wallah subhanahu wa ta'ala alim. Mais chez nous, en Algérie, il y a ce problème où des fois, on est passé par des années, certaines années où, si tu es allé veut avoir un passeport, tu dois présenter des photos où yani, tu ne dois pas avoir de barbe. C'est interdit d'avoir un passeport avec la barbe. Autrefois, c'était interdit d'avoir le passeport yani, pour une femme avec le khima. Et maintenant, avec le passeport biométrique, l'État a voulu, dans les premiers temps, يعني, si c'était possible qu'il n'y ait pas de barbe. Alhamdoulilah, yani, beaucoup de gens se sont soulevés, etc. Et maintenant l'État s'est rétracté et accepte maintenant en Algérie le passeport avec la barbe. Le cheikh Hafidhahullah parle des moments difficiles où il était par exemple impossible à quelqu'un d'avoir un passeport s'il avait la barbe. Non. Il a dit, dans ce cas, il est permis de raser sa barbe si le bonhomme a essayé toutes les issues possibles, même si c'est en donnant de l'argent pour l'avoir. Car en donnant de l'argent ici, ça rentre pas dans l'arrachois. Ça rentre, l'arrachois, c'est pour annuler un haq, ou bien pour valider un batel. C'est ça l'arrachois. qu'on donne en ce sens. Et maintenant, si je donne pour mon haqq, Allah Ta'ala m'a donné le haqq d'avoir la barbe. Et celui-là, il me dit non, tu dois enlever ta barbe. Maintenant, si je trouve quelqu'un qui peut me faire sortir mon passeport, même avec l'argent et avec la barbe, il a dit tu commences par ça. C'est mieux que d'aller enlever ta barbe. Ça, il a dit, cher, c'est la dernière issue. Classe, c'est terminé pour toi. Et encore faut-il que, le cheikh n'a pas noté, très important, encore faut-il que le passeport, je le veux pour quelque chose de très important. Ce n'est pas pour aller me promener, ni pour aller en touriste, je ne sais pas où. Mais quelque chose de très important, comme le hajj par exemple, ou comme aller prendre mon père qui est malade à l'étranger, ou pour aller visiter mon père malade à l'étranger, ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas pour le tourisme. Là, le cheikh rahimahullah est aussi de l'avis que il est permis de jouer aux échecs. Naam. Au jeu de la dame aussi. Il a dit avec leurs conditions. Vous savez que les échecs, il y a une grande divergence entre les savants. Et que la plupart de l'Arabie Saoudite, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, la plupart, rahmahoullah, disent que c'est interdit de jouer aux échecs. Par contre, d'autres, même Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymeen disent que c'est interdit. Par contre, d'autres, comme entre autres, Cheikh Al-Albani, rahmahoullah, est de l'avis que ce n'est pas interdit. Et qu'il n'y a aucun délit qui interdise le fait de jouer avec les échecs. Et que ceux qui ont dit c'est interdit, on dit parce que ça rentre dans le hasard. Et ceux qui ont dit que c'était pas interdit, on dit que le jeu des échecs n'a rien à voir avec le hasard. La preuve qu'il n'a rien à voir avec le hasard, moi par exemple, qui ne sais pas jouer à ce jeu, je n'ai joué que peut-être 15 ou 20 fois dans ma vie. Donc, je suis un débutant. Est-ce que moi donc, d'après cela, donc moi, je vais battre le champion du monde qui s'appelle Kasparov, ou bien je vais battre l'autre qui s'appelle Karpov, les Russes. C'est-à-dire, donc si c'est hasard, donc va me ramener Kasparov et je vais le battre, parce que c'est du hasard, alors que c'est impossible. Il est impossible que je le batte, impossible, super impossible. Là, quelqu'un qui peut battre l'ordinateur qui a passé 40 ans ou 50 ans à jouer aux échecs, moi qui n'y connais rien, je vais le battre. Si c'était possible, naam, ça veut dire que c'est hasard. Le jeu des échecs, ce n'est pas hasard. Ou bien tu connais, ou bien tu connais pas. Et quand tu connais, tu apprends, tu fais des efforts, et comme ça jusqu'à ce que, tu commences à devenir imbattable. Donc le cheikh, rahimah, hafidallah, dit que, ce n'est pas interdit. Il a dit à condition de quoi ? De respecter les conditions. Quelles sont les conditions ? Vous les connaissez. Que ça ne soit pas tout le temps. Que ça ne soit pas pendant les moments de la salat. Que ça ne soit pas avec de l'argent. Que ça ne soit pas avec quelqu'un qui, quand je joue avec lui, je vais m'énerver, etc. Ensuite, on va perdre les liens à cause d'un jeu. À cause d'un jeu, certaines personnes ne vont plus se parler. Ou bien vont s'insulter. Non, il a dit, dans ce cas, c'est haram de jouer, que ce soit aux échecs, que ce soit autre chose. Naam. Le cheikh dit aussi, dans une autre fois, il a dit, c'est permis pour l'homme de mettre un pantalon. Bichoroté, c'est quoi? Ça veut dire, bien sûr, que le pantalon soit au-dessus des chevilles et qu'il y ait quelque chose dessus. Qui descendent du dos, par exemple, jusqu'au bas des fesses. Donc, quelque chose qui descend dessus, comme une veste, bien par-dessus, ou bien. Non. Le Cheikh Hafidhahullah a dit aussi que Az-Zahra, en parlant de Fatima, fille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup disent Fatima tu Zahra. Il a dit ce qualificatif Az-Zahra n'existe pas. Non. Et les selfs n'ont jamais appelé Fatima Zahra. Ils l'ont appelé seulement Fatima. Fatima, d'ailleurs, même le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صح؟ إذا دي فاطمة بنت محمد إلا فاضي فاطمة الزهرة. Donc الزهرة هذه سي venu de quoi؟ سي venu des chiites. Les chiites disent فاطمة الزهرة. نعم. Et aussi le Bethoul. Ils disent beaucoup le Bethoul. Bethoul, celle qui n'a jamais connu d'homme, celle qui يعني, a donné tout son temps à Allah Ta'ala. Bethoul, il a dit ça aussi. نعم, ça n'existe pas chez les salafs. C'est seulement Fatima. Ce n'est ni Fatima tout Zahra, ni Fatima tout Bethoul. نعم. طيب, on va encore terminer avec deux autres choses. نعم, entre parenthèses, je vous mets une parenthèse ici pour dire. Tout la khadiyoum ba'd, inshallah. Le shir, en ce qui concerne celui qui ne fait pas la prière, est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir? Vous connaissez les grands, les deux grands avis sur cette, sur ce problème. Celui qui ne fait pas la salat, est-ce qu'il est kafir ou il n'est pas kafir? Non. Entre parenthèses, c'est tout. L'avis des quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed Mohammed, leur avis, ces quatre grands imams, c'est de quoi? C'est que il n'est pas quoi? Il n'est pas kafir. Non. Donc, une seconde, très rare, une seconde. Une seconde, Inch'Allah. D'accord. Whisper, j'ai pas trouvé, hein. Whisper. D'accord, classe. J'ai trouvé, classe. Donc, je disais, naam. Pour celui qui ne fait pas la prière, pour celui qui ne fait pas la prière, fika barakallah. Le cheikh, hafidahullah, fait la différence entre celui, naam, qui n'a jamais fait la salat, il a dit celui-là, il est kafir. Et entre celui qui, de temps en temps fait la prière et de temps en temps la délaisse. Il a dit celui-là est musulman. Et c'est aussi l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc le Cheikh il est de l'avis du milieu. Il a dit celui qui dans sa vie n'a jamais fait la prière. Ensuite il meurt comme ça, il a dit il est kafir. Il ne faut pas faire la prière sur lui, ni le laver, ni l'enterrer avec les musulmans. Mais celui qui de temps en temps la faisait et la délaissait. La faisait, la délaissait. C'est-à-dire, au moins une fois dans sa vie, il a fait la prière. Il a dit, donc, il a dit celui-là, là, celui-là, n'est pas kafir. Allahu a'lam. Encore deux choses, ou trois. Le Cheikh, rahimahullah, hein, est de l'avis que les youyou, pendant le mariage, les youyou des femmes, il est de l'avis que c'est halal à condition que ça soit seulement entre femmes et que les youyous n'arrivent pas jusqu'aux oreilles des hommes. Comprenez, il a dit que faire le youyou en lui-même, ce n'est pas haram. Ce qui est haram, c'est le faire entendre aux hommes. Et entre parenthèses, vous savez que yani, faire un youyou, yani, c'est presque impossible que yani, qu'il n'arrive pas aux hommes. Parce que le youyou, quand la femme le fait, elle le fait yani, de son maximum de sa voix. Il faudrait qu'elle prenne le souffle pour le faire. Ensuite, ça va, le youyou va très loin. Non. À 100 mètres, 200 mètres, on peut l'entendre. Non. C'est pour ça que yani, il faudrait, quand elle le fait, il faudrait yani, qu'elle rabaisse un peu de sa voix. Ou alors le faire dans une salle, par exemple, une salle où c'est enfermé. De toute façon, pour dire la vérité, ce n'est pas facile, yani, dans un mariage, de dire ne faites pas les youyou, viens d'arrêter les youyou. Non. Demandez à ceux qui assistent beaucoup au mariage, ils vous diront. Ils vous diront si c'est possible ou pas. Non. Deux choses pour terminer, inshallah ta'ala. Le Cheikh Hafidahullah est de l'avis que c'est possible, pendant le mariage, de décorer la voiture la voiture. Il a dit à condition qu'elle ne soit pas décorée par les fleurs, parce que c'est l'habitude des chrétiens dans leur mariage. Décorer une voiture. Non, je n'ai pas obligé, comme la plupart des gens, de la décorer avec des fleurs. Je peux la décorer avec des... Non, comment on appelle ça, des trucs comme ça, hachia, des trucs rouges, roses, comment ça s'appelle, le hawashi, je ne sais pas comment on appelle ça, les ornements. Non, quand on achète un cadeau, non, on va l'attacher avec quelque chose de rose, par exemple, comme ça. Non, ces choses-là, on peut maintenant embellir la voiture avec des choses pareilles. Essentiel, des rubans, jazakallahu khairan, des rubans, barakallahu fi, avec des rubans ou autre chose. Un mohim, on essaye de quoi? On essaye d'éviter les fleurs. On essaye d'éviter les fleurs. Il a dit, c'est l'habitude dans le mariage des chrétiens. Enfin, pour terminer, le cheikh Hafidhahullah voit que le fait de faire la salate avec quelque chose de rouge, un kamis rouge, ou bien un khimar rouge, ou bien un djilbab rouge, quelque chose en rouge, une abaya rouge. Vous savez qu'il y a une divergence entre les savants. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est permis? Le cheikh est de l'avis qui dit que c'est halal et qu'il n'y a pas de karaha. Il a dit que c'est halal à 100% de faire la salate tout en étant habillé de rouge. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. والله سبحانه وتعالى أعلم وإن شاء الله تعالى قوم جوزي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل الأخ كريم on va passer aux questions شوف مليح معايا الوقت الغرباء il est chez moi 20h30 à 21h30 إن شاء الله تعالى on arrête 1h 21h30 إن شاء الله تعالى on arrête. Avant cela, une seconde, je vais faire un tour dans le salon qui est en Europe pour leur écrire la phrase que j'avais écrite ici, comme quoi ils peuvent rentrer sur le pad maintenant d'Algérie. Et je reviens, inshallah ta'ala. Prépare les 5 questions.
Je vais commencer par la première question. Inch'Allah. Donc, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallah alaykoum. J'ai fait le hijra au Maroc, alhamdulillah. Cependant, mon mari est resté en France pour diverses raisons, dont le fait qu'il ne soit pas tout à fait convaincu par l'obligation de la hijra. Il m'arrive du coup de recevoir de la visite de la famille, et ils viennent en famille, c'est-à-dire le mari, la sœur, les enfants, alors que son mari n'est pas là. Cela est-il un problème au point de vue de la religion? Barakallahu fikoum. Deuxième question. Salam alaykoum cheikh. Une sœur demande. Si on a le fil blanc après les menstrues, mais que dans le fil, il y a un autre fil un peu marron ou noir. Deuxièmement, ou alors un fil mais pas blanc, mais plutôt jaune très clair, presque blanc. Comment faire? Car la sœur n'arrive pas à bien voir la différence de couleur et savoir si c'est un blanc ou jaune. Est-ce que c'est le fil obligatoire ou les mini taches blanches suffisent-elles? Barakallahu fikoum. Troisième question, cher. Salam alaikum. Dans les livres ou les audios, les avis divergent à propos de deux salats, les deux rak'at lors de la nuit de noces et la salat du tesbih. Ce sont des hadiths faibles. C'est des questions. Faut formuler une question. Ces hadiths-là sont-ils faibles ou authentiques, cher? Ou c'est une innovation? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah ta'ala bénisse toutes les personnes présentes dans la room. Amin. Quatrième question. Salam alaikum. On a tous un shaitan en nous. Peut-on entendre sa respiration ou c'est forcément celle d'une autre créature présente également? Barakallahu fikoum. Cinquième question, cheikh. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Il y a quelque temps, j'ai fait un rêve dans lequel je lisais le Coran. Et au fur et à mesure de ma lecture, les versets s'effaçaient et les pages devenaient blanches, au point où toutes les pages du Coran furent dépourvues de leurs versets. J'ai donc voulu m'acheter un autre Coran, mais leur prix était très élevé et je n'avais pas assez d'argent pour m'en payer un. Je n'ai donc pas pu me procurer le Coran. Quelle peut être la signification de ce rêve, Cheikh ? Qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Tfadlan, Cheikh.
Donc, Samah al-Ghuraba. Dans la quatrième question, tu avais parlé du shaitan et de sa respiration. Est-ce que tu peux répéter la question, Barakallahu fik? Ensuite, autre chose. Kouza Hakim, attends une seconde que je t'enlève le rouge pour nous passer le salam, inshallah ta'ala. Tfadlan, réponds-moi d'abord, Al-Ghuraba.
Madame Chir, donc je réponds et je répète la question. La question c'est, on a tous un shaitan avec nous. Alors peut-on entendre sa respiration ou c'est forcément celle d'une autre créature présente également, yani un djinn?
Franchement, je n'ai pas bien compris la question, mais je vais répondre, inshallah ta'ala, d'après ce que j'ai compris. Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala ashraf al-mursalin. Alhamdulillah. Pour la première question, pour la personne qui a fait la hijra au Maroc, si j'ai bien compris, elle a dit que là-bas, une sœur vient la voir avec son mari et ses enfants, etc. Et je crois qu'elle demande si c'est possible qu'elle reste avec cette sœur et son mari ou pas. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Si c'est ça la question, de préférence, inshallah ta'ala, ce mari qui vient avec sa sœur, de préférence, il ne rentre pas à la maison. Il laisse seulement sa femme rentrer pour discuter avec son ami. Quant à lui, il la dépose et revient, par exemple, le soir, la prendre. Il revient le soir, la prendre. Maintenant, s'il y avait son mari à elle, et ensuite, il y avait le mari de celle-là, il n'y a pas de problème, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à, toujours dans la première question, quant à le fait qu'il ne soit pas convaincu par la hijra, etc., il faut faire, inshallah ta'ala, des efforts, pour faire parvenir aux gens des choses que beaucoup ne connaissent pas. C'est pour ça que vous pouvez demander à beaucoup de gens quel est le statut du fait de vivre dans ces pays-là. Barakallahu fik, alayka alayhi salam. Billaghlum salam jami'an. Billaghlum salam jami'an. Hafidakallah. Donc je disais, beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, quel est le statut de celui du fait de vivre dans un pays de mécréance. C'est pour ça qu'il faudrait le faire, leur faire lire les fatwas, leur faire écouter ce que disent les savants sur le fait de vivre là-bas, et que, surtout pour ceux qui ont peur de tomber dans les fitnas, et ceux qui ont les moyens de quitter le pays. Pour cela, ça devient une obligation, car c'est interdit, de rester là-bas sans daroura. Pour la deuxième question, qui a dit qu'elle avait le fil blanc, mais ce fil blanc était marron ou noir, je dis, si elle a l'habitude, quand elle devient pure, d'avoir un fil blanc à 100%, alors dans ce cas, quand elle a un fil blanc avec du jaune ou du marron ou du noir, elle doit attendre jusqu'à ce que ça devienne blanc à 100%. Mais si, quand elle voit ce fil blanc avec quelque chose de jaune ou de marron, c'est toujours comme ça, ça reste toujours comme ça, ça veut dire que il n'y a pas de problème, en voyant seulement ça, ça veut dire qu'elle est pure. Donc c'est à elle de voir. C'est à elle de voir si après le blanc et le jaune, ça devient tout blanc, donc elle attend, ça devient tout blanc. Et si ça reste le fil, hein, d'après les monstres, il reste toujours blanc, mais toujours avec un peu de marron ou là, toujours comme ça. Donc dans ce cas, c'est comme ça qu'elle devient pure. Mais je pense, d'après mon avis, que si elle a fondé, un peu, comme a dit Aïcha, elle a dit, pas se précipiter. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle voit, elle a dit, le blanc comme de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Là, troisièmement, pour les deux rak'at de la nuit de noces. Les deux rak'at de la nuit de noces, c'est une sunna, yani pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des compagnons. Abdullah ibn Mas'ud a fait ça. Donc si quelqu'un, la nuit de noces, s'il veut faire deux rak'at avec sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris comme modèle les sahaba, les salaf, radiyallahu ta'ala anhu. Mais pas un égaré. Naam. Mais s'il ne veut pas faire cette chose, qu'il ne la fasse pas, ce n'est pas une chose obligatoire. Mais de dire que c'est daif, ce n'est pas daif. Hein? C'est un sanad sahih jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Quant à salat tasbih, il y a beaucoup de divergences sur salat tasbih. Et l'avis le plus sûr, inshallah ta'ala, le plus juste, c'est que salat tasbih repose et se base sur un hadith authentique, comme a dit Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Là, salat tasbih, même s'il y a des savants qui disent que ça se base sur un hadith forgé et menti, comme dit Sheikh Shawkani, rahimahullah, on dit que, par contre, d'autres, comme Sheikh Al-Albani, on dit que salat tasbih, ça, yani, ça a un hadith authentique qui se base sur, la, sur lequel elle se base. Et donc, salat tasbih, ça se fait. Ça se fait. Hein, pour ceux qui savent qu'est-ce que ça veut dire, salat tasbih. Quatrièmement, pour le shaitan et la respiration, c'est pas possible, hein, qu'on entende, yani, le shaitan qu'on a. Vous savez, nous tous, on a un shaitan. Même le prophète Islam avait un shaitan qui, Islam. Islam, ça veut dire, ou bien il est rentré en Islam et son shaitan est devenu musulman, ou bien ça veut dire, le prophète Islam, Islam, ça veut dire, ne peut plus lui faire du mal. Sans plus lui faire de mal. C'est le moyen. On a tous un shaitan, mais c'est impossible d'entendre sa respiration, sauf si on devient possédé. Si on devient possédé, on peut voir les djinns, on peut les entendre, on peut parler avec eux, on peut discuter avec eux, mille choses. Tant qu'on est à l'état normal, on ne peut pas en le voir, à moins qu'il vienne sous une forme humaine, par exemple. Où il se présente, par exemple, sous la forme d'un animal ou là, et par exemple, qu'il nous parle. Sinon, le ressentir comme ça, il est dans notre corps, tout en étant normal, non. Il est dans le corps à côté du shaitan. Il est dans le corps à côté du shaitan. J'ai pas compris, Whisper, j'ai pas compris cette question. Pour la dernière, la personne qui a dit qu'elle rêvait de lire le Coran, etc. Petit à petit, au fur et à mesure, ça est devenu blanc et il n'y avait plus de Coran. Ensuite, elle a voulu acheter un Coran, elle n'a pas pu, etc. Je ne suis pas, yani, quelqu'un de fort dans l'interprétation des rêves, mais je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala, que peut-être, je dis peut-être, hein, peut-être, Allahu alam, peut-être c'est un avertissement. Car Allah ta'ala dans les rêves, ou bien il donne des avertissements, ou bien il donne des quoi? Il donne des bouchers, des bonnes nouvelles. Donc ça peut être un avertissement pour la personne que peut-être elle ne lit pas souvent le Coran. Yani, au point où elle le lisait au début et maintenant, yani, vraiment c'est comme si elle s'est isolée du Coran. Elle l'a exilé, classe. C'est pour ça qu'au point où il n'y a plus de lettres sur les pages. Donc c'est à elle ou même de faire des efforts pour en montage. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfadal.
Là, monsieur, je voulais vous dire par rapport au djinn, en fait, la question, c'était juste une précision. Je voulais savoir si, vu qu'on a Shaitan à côté, qui est à côté de nous, l'autre djinn qui posséderait la personne, il serait à côté ou pas. Enfin, il n'y a pas de. C'est ça en fait la question. Ensuite, donc, je vous pose la première question. Salamu alaykoum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour votre travail ainsi que les administrateurs. Ça fait plaisir de vous retrouver, Cheikh. J'aimerais savoir quel est le jugement concernant les jouets pour les enfants représentant des animaux, une peluche par exemple en forme d'ours. Une peluche en forme d'ours. Y a-t-il une différence si ce sont des animaux ou des créatures qui n'existent pas? Un lapin en peluche orange, rose et vert. Et certains objets peuvent-ils être utilisés s'ils ont une fonction éducative et instructive, même s'ils contiennent des représentations figurées, comme par exemple un livre d'enfant et un tapis où l'enfant il peut toucher les peluches et on le met dedans et il touche, il y a pas mal d'objets. Barakallahu fik. Deuxième question, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Une personne demande: j'ai 32 ans et mes parents souhaitent que je me marie. Mais ils n'ont pas. Mais ils n'ont pas la même conception de la prétendante que moi. Ils n'ont pas la même que moi. Je souhaite me marier avec une femme qui est attachée à la religion, qu'elle soit, quelle que soit son origine ethnique. Alors que mes parents, eux, s'opposent au hijab et refusent qu'elle soit d'une autre origine que la leur. Donc j'aimerais satisfaire tout le monde afin de ne pas faire des vagues et des problèmes au sein de la famille. Mais le souci, c'est que je ne connais pas de sœur de mon origine qui est dans la religion, pour la simple et bonne raison que je viens d'entrer dans l'islam. Inch'Allah. Et donc je ne connais pas de frère marié qui pourrait demander à leur femme si je trouve donc une sœur d'une autre origine et qui réponde à mes critères. Puis-je me marier sans l'accord de mes parents? Barakallahu fikoum. Troisième question. Salam alaikum ya shir. Barakallahu fik pour les cours que je suis depuis près de 6 mois. Qu'Allah vous préserve ainsi, allonge votre vie dans son obéissance. Mon père est mort, rahimallah, et nous sommes une famille de 3 enfants. 22, 24 et 27 ans. Nous habitons avec ma mère, le plus jeune travaille, les deux autres non. Ma mère demande si elle est dans l'obligation d'acheter un mouton. Elle a de l'argent de côté et a la capacité de l'acheter, ce mouton. A-t-elle la charge de ses enfants qui ne sont pas mariés? Ensuite, dans le livre Al-Wajiz de Cheikh Abdelazim Badawi, qui contient beaucoup de choses un peu... Il faut un mouton par foyer, mais qui en a la charge. Il dit ça. Conseillez-vous ce site pour le minhaj? C'est un livre, c'est pas un site. Car en français, les livres de fiqh sont rares. Quel dommage de ne pas avoir les livres du grand faqih et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Conseillez-vous ce site? Enfin, c'est, elle parle du livre, Cheikh, hein, c'est pas un site. Barakallahu fikoum. Quatrième question. Salamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous accorde le paradis ainsi que votre famille. Une sœur vient de se convertir récemment à l'islam et elle souhaiterait savoir si elle doit se voiler devant son beau-père, le mari de sa mère. Il l'a vu grandir depuis qu'elle est petite. Barakallahu fikoum. La cinquième question, Cheikh. J'aimerais savoir si un époux est dans son droit d'interdire sans cesse à son épouse de sortir, même lorsqu'elle est invitée. Il lui interdit de répondre aux invitations, sachant que le musulman doit répondre à l'invitation. Ce comportement est-il louable? Est-il dans son droit de faire cela et d'empêcher sa femme de sortir? Qu'Allah vous préserve. Fadal, Cheikh.
Nous
sommes à
la cinquième question.
La dernière question, Cheikh, c'est une sœur qui demande. Elle dit voilà, son époux lui interdit de sortir sans cesse, à chaque fois. Donc il y a des fois elle est invitée. Des fois elle est invitée par d'autres sœurs et donc lui il interdit à chaque fois. Elle demande si ce comportement est normal et s'il a le droit de faire ça, de l'empêcher à chaque fois de sortir. Voilà.
Je commence Inch'Allah par la cinquième question, comme ça j'aurai pas besoin de l'écrire, Inch'Allah Ta'ala. En principe, quand le mari interdit à son épouse qu'elle sorte, elle doit lui obéir. Elle doit lui obéir. Mais toutefois, l'islam a ordonné à l'époux qu'il se comporte bien envers son épouse. Il a dit « wa ashiruhunna بالمعروف. Et comportez-vous bien avec elles, avec vos épouses. Allah Ta'ala dit ça. Et maintenant, par exemple, de nos jours, vous savez que le fait que la femme sorte, enfin, pas tout le temps, mais qu'elle sorte pour aller chez ses parents ou la rendre visite, ou c'est devenu quelque chose de très courant. Et le contraire, yani d'être tout le temps à la maison bloqué, c'est ça ce qui est devenu peut-être yani, qui n'est pas courant. C'est pour ça que maintenant, si yani, l'époux décide de bloquer sa femme, de ne jamais la laisser sortir, celui-là, yani, il n'est pas yani, à jour. Il n'est pas à jour avec yani, le mode de vie de la société. Maintenant, si ma femme, en sortant, j'ai des doutes sur elle, ou bien des frivoles, ou bien je l'ai rencontrée plusieurs fois en train de discuter avec des hommes, ou celle-là, je ne la laisse pas sortir. Elle ne sort qu'avec moi. Et maintenant, si ma femme, j'ai plein confiance en elle, je la connais, je connais son caractère, je connais sa piété, je connais son dîme. Maintenant, si elle me demande d'aller, de sortir, pour des raisons valables et sans exagérer, je crois que le bon comportement serait de la laisser sortir bi-idhnillahi ta'ala. Sauf bien sûr s'il y a des fitnas, ou là, si j'ai peur pour elle, ou là il y a des voyous, ou là il y a... Ça c'est autre chose. Mais je parle dans des situations normales. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Donc la première question c'était pour les jouets, pour les enfants, etc. Les savants ont dit que yani, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha radiallahu ta'ala anha jouait avec des jouets et qu'elle a construit même un cheval avec des ailes, comme vous savez, même le prophète alayhi wa sallam s'est étonné. Il lui a dit, c'est quoi ça? Il lui a dit, un cheval. Il lui a dit, un cheval avec des ailes. Elle lui a dit, ne sais-tu pas que Sulayman alayhi salam avait des chevaux avec des ailes? Il a ri, sallallahu alayhi wa sallam. Il a ri, alayhi salam, de ce qu'elle a dit. Al-Muhim, les savants ont dit, ce cheval-là avec des ailes, etc., ce n'est pas comme nos jouets d'aujourd'hui qui vraiment, vraiment, yani, ressemblent à la réalité. Autrefois, c'était par exemple un morceau de chiffon avec deux petits bâtons à droite et à gauche, ce sont les bras. Deux petits bâtons en bas, c'est quoi? C'est les jambes. Et on met n'importe quoi sur la tête, une mandarine ou je sais pas quoi, c'est ça la tête. Mais maintenant, de nos jours, subhanallah al-adhim, les gens ont exagéré au point où, des fois, quand tu vois un ourson ou là un ours ou là je ne sais pas quoi, tu crois que c'est un vrai ours. Dans le supermarché, tu vas crier, tu vas hurler, tu vas t'enfuir. Tu vas dire, il y a un ours là-bas, il veut m'attaquer. Alors que c'est pas, bien sûr, c'est pas un vrai ours. Mais yani, tellement, ils ont exagéré dans le fait de quoi? Dans le fait de faire ressembler yani, à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est pour ça que maintenant ceux qui disent que les savants ont dit pour c'est permis les jouets pour les enfants, etc. Non, c'est permis, mais pas des jouets qui vraiment yani, ressemblent à des êtres humains, qui ont toutes les formes. Vous avez remarqué maintenant, il y a des poupées, qu'est-ce qu'elles font? La poupée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rit, elle pleure, elle danse, elle tète le biberon. Non, tu es dans le biberon, elle le tète. Maintenant, on m'a dit, il y a des poupées qui font pipi. Il y a des poupées qui font pipi. Al-Muhim, les poupées maintenant, elles font tout. Comme j'ai dit une fois, elles font pas une seule chose, elles font pas la salade. Vous connaissez une poupée qui fait la salade? Il se lève, dit Allahu Akbar, et elle commence à descendre. Il n'y a pas. Elle chante, elle danse, elle fait pipi, elle applaudit des mains. Al-Muhim, quand quelqu'un doit acheter des jouets, d'abord qu'il se bat sur les petites choses, on n'achète pas les grandes choses, les ours, les grandes peluches, etc. Ils achètent les petites et au maximum, les savants disent, au maximum, il y en a celles qui n'ont pas, il y en a de, par exemple, les traits dans les visages. Si c'est possible, les jouets qui n'ont pas d'un ours qui n'a pas de nez, qui n'a pas d'yeux. Ou alors si on l'a déjà à la maison, et ça bondit, on lui efface. On lui efface par exemple ses yeux. Non. On lui efface quelque chose du visage. Pour qu'il devienne comme ça, pour qu'il ne fasse plus ressemblance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Non. Et bien sûr, il y a des trucs où maintenant de nos jours, ça se trouve partout. Ça se trouve que c'est impossible maintenant, par exemple, d'acheter un cahier où il n'y a pas, par exemple, des images, où il y a des livres, des images, etc. Ça même des cartables. Des fois, on ne trouve pas un cartable où il n'y a pas, par exemple, des images, des photos, des. Non. C'est partout maintenant de nos jours. C'est pour ça qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Ce qui nous dépasse. Nous dépasse. Non. Pour la personne qui avait parlé de comme quoi elle avait 32 ans et que ses parents s'opposaient au hijab, etc., elle voulait dire si elle pouvait se marier sans l'accord des parents. Non. La base, c'est que se marier sans l'accord des parents, ça donne toujours de grands problèmes. Non. Le moindre problème, c'est que tes parents, dans la plupart des cas, vont se désavouer de cette personne. Ils ne vont plus lui parler, ils vont dire, ce n'est plus ma fille jusqu'à ce que je meure. Comme ça disent la plupart, par exemple, des pères. C'est pour cela que je conseille d'essayer de faire le maximum. Pourquoi ? Pour yani avoir le ravissement et le consentement des parents pour le mariage. Non. D'avoir au maximum le consentement des parents pour le mariage. Maintenant, si c'est une personne convertie, comme on vient de me le dire, dans ce cas, ça change tout. Ça change tout, car les parents de la convertie ne sont pas musulmans. Et eux, bien sûr, ils ne vont pas accepter wahda, yani de se marier avec quelqu'un, par exemple, avec la barbe ou la... Si c'est une sœur avec le hijab, etc. Dans ce cas, non, elle ne doit pas, elle doit essayer de les convaincre, c'est tout. Mais s'ils ne peuvent pas, place. S'ils ne veulent pas, la ghalb. Non. Parce que, comme vous savez, ils n'ont pas de tutorat sur elle. Non. Enfin, pour la quatrième personne, et la femme qui a dit qu'elle avait des enfants, etc., et que le père est mort, rahimahullah, et qu'elle avait les moyens d'acheter un mouton, et qu'elle avait des enfants à charge, elle disait si elle achetait le mouton ou pas. Je dis, Ukhti fillah subhanahu wa ta'ala, non, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens d'acheter un mouton, et que, en plus de cela, tu peux le faire, non, fais-le bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, en mettant dans la tête que je le fais pour vivifier la sunna de Ibrahim alayhi salam, et que yani je voudrais de par ce geste le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala te donnera vraiment de grandes récompenses et te rendra cet argent que tu auras donné fi sabilillah, et aussi pour faire plaisir aux enfants, pour vivifier la sunna de quoi, de l'égorgement. Il faut apprendre à nos enfants que lorsqu'on égorge, ce n'est pas pour la viande seulement. Non, la viande, ça vient en deuxième position. La première position, c'est quoi? C'est din. À cause de Sunnat Ibrahim alayhi salam. Et à cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque avait les moyens d'égorger, il n'égorge pas, il a dit celui-là, qu'il s'éloigne de notre Moussallah. Qu'il ne vienne pas prier avec nous le jour de l'Aïd et qu'il s'éloigne de nous. Pourquoi ? La personne qui a des moyens et qui dit, moi, je ne veux pas égorger. Beaucoup de gens sont riches, masha'Allah, ont beaucoup d'argent, et quand c'est pour appliquer une chose pareille de din, ils deviennent les plus avares du monde. Parce que pour lui, un kibsh, ou un khaouf, ou un agneau, ou un mouton, classe, il va devenir le plus pauvre du monde s'il va acheter un mouton. Classe, il va s'appauvrir. Miskin, il va s'appauvrir. Alors qu'il est prêt à à dépenser je ne sais pas combien d'argent pour des futilités. Ça, c'est quelque chose du din, quelque chose que Allah aime, quelque chose qui fait profit aussi aux enfants. Ils vont manger le mouton, s'amuser, jouer ce jour-là. Il va les priver, subhanallah. Il va les priver. C'est pour ça que je conseille aux personnes qui vivent en France et qui disent que c'est interdit. C'est interdit en France d'égorger, c'est interdit, on risque une contravention, etc. Je leur dis, comme a dit Cheikh Ben Othaymin, rahimahullah, c'est interdit, d'accord. Mais ce n'est pas interdit que tu donnes la tutelle à quelqu'un dans un autre pays. Ce n'est pas interdit que tu envoies ton argent en Algérie ou bien au Maroc ou là en Tunisie ou là en Libye et que tu dises à quelqu'un, égorge un mouton en mon nom. Égorge un mouton, fils Abila, c'est vous qui le mangez, pas moi. En mon nom, pour votre famille, en mon nom. Quand il va égorger, il dit Bismillah Allah Akbar, min foulan. C'est de la part de foulan. Et il l'égorge. Comme ça, dit Cheikh Ibn Othaymin, naam, ne pas égorger chez toi, fais profiter des gens. Premièrement, tu as égorgé un mouton. Deuxièmement, tu as fait profiter des pauvres, naam, dans des pays où ils mangent la viande une fois par an. Subhanallah al-Azim. Et tu verras comment Allah subhanahu wa ta'ala va te bénir ton argent. Naam, ce n'est pas que tu vas devenir pauvre. Tu as fait quelque chose. Fi sabilillah. Allah ta'ala a dit, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Il a dit, tout ce que vous dépensez, c'est lui qui va le rendre. Naam. Enfin, pour la reconvertie qui a dit que, naam, la reconvertie qui a dit que, est-ce qu'elle doit se voiler devant son père, son beau-père ou pas? La réponse, si elle veut dire par beau-père, si elle veut dire par beau-père, le mari de sa mère. C'est-à-dire que cet homme est marié avec sa mère officiellement à la mairie. À la mairie des Kofars, pas des musulmans. Je lui dis, dans ce cas, tu peux te dévoiler devant lui. Pourquoi? C'est ton beau-père. Et tu es, naam, tu es qui? Tu es sa belle-fille. Mais si cet homme n'est pas marié avec ta mère officiellement, il vit avec elle en concubinage. C'est seulement un ami ou un copain à elle. Dans ce cas, c'est interdit de se dévoiler devant lui. Car c'est un étranger pour toi. C'est un étranger. Quelqu'un qui vient faire le haram avec ta femme, avec ta mère et qui part. Celui-là, c'est un étranger pour toi. Il n'a le droit ni de te faire la bise, ni de te serrer la main. Non. Et encore moins de te voir, yani, sans le voile. Est-ce que c'est clair, Akhi Al-Ghuraba? Dis-moi si c'est clair, Inch'Allah Ta'ala.
Non, donc, il y a juste une précision par rapport à, donc, à la maman qui est, à la mère qui a ses enfants à charge. La personne demande pour le mouton, la question sur le mouton. Elle voudrait une précision. Donc, les enfants qui sont gras, ils ne travaillent pas. Ils sont-ils à sa charge? Ils doivent manger avec elle ou pas? Et le livre Al-Wajiz, je pense que vous le connaissez. Moi, je sais qu'il contient des paroles, déjà deux textes de Sayyid Qutb et une parole aussi de Qaradawi. Elle voudrait savoir si votre réponse par rapport au livre. Voilà, Cheikh.
Pour la première question, les enfants qui peuvent travailler, etc., ne sont pas à sa charge. S'ils peuvent travailler, ils ne veulent pas. Dans ce cas, ils ne sont pas à sa charge. Maintenant, si vraiment ils veulent, ils ne peuvent pas. Ils veulent. Ils ne peuvent pas. Essaye et il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment qu'elle fait? Elle les laisse mourir de faim? Ou bien elle les aide? Un étranger, je l'aurais aidé. Un kafir, pas un musulman. Je l'aurais aidé. Si je le connais, il me dit, j'ai pas de quoi manger ni de boire, je vais mourir de faim. Un kafir, je vais lui dire, attends, je vais te ramener un peu de soupe chez moi, un peu de pain, je vais lui donner. Ou bien, il me dit, je vais marcher nu dans la rue, j'ai pas de quoi acheter des habits. Je vais lui dire, attends, je vais te donner pour acheter un pantalon et une veste. Alors, qu'en est-il maintenant? Mes enfants à moi qui sont sortis de mon ventre. Non. Donc, j'essaie de les pousser pour qu'ils travaillent, etc. Mais si je sens deux, non, qu'ils ne veulent pas travailler, dans ce cas, je ne suis pas obligé de les nourrir. Je suis pas obligé. Mais si je trouve qu'ils veulent et essayent, font leur possible, mais n'arrivent pas, je dois les aider. Je dois les aider. Enfin pour le livre, c'est un bon livre, l'Oasis. C'est un bon livre si on évitait les quelques erreurs qu'il y a à l'intérieur. Non, pour ceux qui connaissent les phrases ou les citations qui ne sont pas bien dans ce livre. Mais en général, c'est un bon livre. Et beaucoup le conseillent et ils se basent sur le Coran et la Sunna Sahiha, sur les hadiths Sahih. À part que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il n'y ait aucun livre dans le monde parfait sauf son livre, qui est le Coran. Sauf le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, le seul qui est parfait parmi tous les livres du monde. Tous les autres livres, malgré yani, qu'ils soient écrits par les plus grands savants, yani, on peut y déceler à l'intérieur yani, des choses qui sont fausses ou des choses qui sont faibles ou des choses yani, qui ne sont pas à 100% exactes. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bidna ta'ala. Est-ce que je me suis trompé, Ghoraba? Est-ce que je t'ai dit on arrête à maintenant ou à 21h30? Qu'est-ce que je t'ai dit au début du cours? Fadbal, écris-moi, barakallahu fi. 21h30. Ça y est, donc je me suis trompé, donc il reste, inshallah, 25 minutes. Fadbal.
Juste avant de poser la question, on m'a posé beaucoup de fois la même question par rapport au téléphone, chef. Pour certains, ils aimeraient que vous, enfin, si c'est possible de contacter par téléphone comme avant, à vous de nous répondre, Inch'Allah. Bon, des fois, c'est des questions personnelles, vous le savez. La première question, salam alaikum, chef. Il m'arrive de devoir faire le rousl durant des nuits de grand froid. Comme je crains de tomber malade, je fais le rousl normalement, mais arrivé aux cheveux, je ne me lave pas les cheveux de peur de tomber malade. Ma question est, dois-je me relaver les cheveux pendant la journée lorsque le temps est beaucoup plus chaud et que je ne crains plus de tomber malade? Ensuite, la personne a dit, j'ai envoyé un mail concernant un projet personnel, mais je n'ai pas eu de réponse et ça date du mois d'août, le 6 août. Pouvez-vous répondre au mail? Barakallahu fikoum chekh. Deuxième question, est-il permis de vendre des choses telles que les MP3, c'est des, enfin pour écouter la musique et les écouteurs, etc. Et des vêtements aux mécréants, sachant qu'ils peuvent en faire mauvais usage. Barakallahu fikoum. Troisième question, salam alaikum, cher, que Allah vous récompense pour le temps que vous accordez, que vous nous accordez à foule. Je voudrais que vous m'éclairciez sur les conditions de vente. Est-ce qu'on peut faire des achats sans avoir pesé la marchandise? Est-ce interdit d'acheter des articles sans les avoir pesés ni mesurés? C'est une condition de vente que de peser et de mesurer une marchandise. Est-ce une condition dans la vente que de peser donc et mesurer une marchandise avant de la vente? Si on n'a pas la possibilité. Parfois, rien n'est indiqué sur le produit et indiqué et c'est indiqué uniquement par rapport au poids net. Et quelle est la différence entre le poids et la mesure? Je fais référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la personne souhaite des informations. Quatrième question. La personne dit je suis tombé sur un article qui m'a mis de fortes ambiguïtés. Dans mon apprentissage de la religion. Et à cause de cela, je sais et j'ai les preuves que le tawassul est du shirk akbar. Pouvez-vous me dire si c'est la parole du grand imam, c'est un grand imam dans cet article-là, il faut le mettre l'article. Il souhaiterait le frère, en fait, que vous lui répondiez par mail. Et si vous pouviez aussi me dire si ce sont des paroles trompeuses, si c'est parce qu'elles sont tout simplement inventées ou sorties de leur contexte ou autre. Répondez-moi par mail, barakallahu fikoum. qu'Allah vous préserve ainsi que vous continuez à nous donner des cours aussi pertinents et simples à la fois. Salamu alaikum. Dernière question, Cheikh. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits pour tout ce que vous faites pour la Ummah. Pour la Ummah islamienne. Et Cheikh, je souhaiterais savoir ce qu'il y en est, de l'espacement des grossesses. En sachant que la plupart des ulama disent qu'il faut 2 ans entre 2 grossesses pour les mères vivant dans les pays de Kufr et qui suivent la scolarité de leurs enfants à la maison. En effet, avoir un enfant tous les 2 ans, en sachant que tous seront instruits à la maison par la mère, est très difficile à gérer, tant sur le point de vue de l'organisation des cours, des tâches ménagères, des devoirs conjugaux, etc., que sur le point de vue psychologique. Que nous conseillez-vous, bien cher ? Barakallahu fikoum, de l'attention que vous le portez. Voilà, Cheikh. D'accord. Donc, le Cheikh, il dit que ce n'est pas possible pour le téléphone pour l'instant. Tfaddal, Cheikh. Barakallahu fik.
Non, Barakallahu fik. J'ai pas entendu la troisième question. La troisième question, je n'ai pas entendu. Et si tu pouvais, Inch'Allah Ta'ala, relire la première, vite, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal.
Non, je prends le micro. Donc je répète la première question. Il m'arrive de faire le ghusl. Donc la sœur a dit en fait, des fois des nuits il fait très très froid et au lieu de, quand elle fait le ghusl, ben elle lave pas ses cheveux. Elle demande par crainte parce qu'elle a peur de tomber malade si elle se lave les cheveux la nuit et elle tombe malade à cause de ça. Ensuite elle dit par rapport à ça, elle les lave pas la nuit, mais dans la journée est-ce qu'elle peut. Donc, ou alors si elle doit les laver dans la journée, par rapport à cette crainte-là. Et vous avez envoyé un email par rapport à un projet personnel qui date du 6 août. Faudal Cheikh, peut-être j'ai oublié quelque chose. Dites-le moi, Inch'Allah.
Je lui dis la troisième, je n'ai pas entendu.
D'accord, là, je vais la répéter, Inch'Allah. Donc, c'est par rapport à la vente, les conditions de vente en fait. La personne a dit, est-ce qu'on peut acheter ou vendre, a dit une marchandise sans l'avoir pesée, et donc, ou alors mesurée avant de l'acheter, ou alors avant de la vendre. Est-ce que ça c'est une condition dans la vente par rapport à, par exemple, si elle, cette personne-là vend une marchandise et donc elle donne pas ces informations là par rapport au poids. Et elle dit aussi surtout, c'est par rapport au hadith, c'est quoi la différence entre le poids et la mesure par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, vous avez avancé là. Inch'Allah, vous avez entendu la question, Inch'Allah.
Donc, Inch'Allah, je vais répondre aux questions que j'ai entendues. La première, en ce qui concerne le ghusl, si la sœur, si elle sait que, maintenant, si elle va prendre la douche, qu'elle va laver ses cheveux, elle va tomber malade, par exemple, le lendemain, ça ne veut pas dire que maintenant, si elle ne va pas les laver, que le lendemain, elle peut laver seulement les cheveux. Non. Dans ce cas, le lendemain, elle doit laver tout son corps, y compris les cheveux. Et la nuit, là où elle avait peur, là, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle fait le rose sans les cheveux, elle fait le taïmoum pour les cheveux. Yani la niya pour le taïmoum, que c'est pour la tête. La tête, ils n'ont pas les cheveux. Et le corps, elle l'a lavé, alhamdoulilah. Sinon, comme j'ai dit, le lendemain, quand c'est chaud, etc., et elle sait qu'elle ne va plus tomber malade, dans ce cas, elle doit laver tout son corps, bi'idhnillahi ta'ala. Et bien sûr, dans cette chose-là, on va trouver les extrêmes. On va trouver ceux qui, yani, ont tellement peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son iqab, etc., qu'ils se lavent des fois beaucoup au point de tomber malade. Non. Ils disent, non, moi j'ai peur que ma salade ne soit pas acceptée, etc., je me lave, même si je tombe malade, etc., et se lave et tombe malade, et c'est interdit. Et dans l'autre extrême, il y a d'autres gens qui, ceux-là, ils n'ont pas peur du tout. Ils te disent, moi, je me lave pas, juste un petit froid, il te dit moi je me lave pas, j'ai peur de tomber malade, alors qu'il n'a pas peur du tout. Et il peut rester comme ça 10, 15, 20 jours sans se laver. Non. Alors que le milieu c'est quoi? C'est quand je sens que si je vais me laver, j'ai l'habitude de tomber malade, je me lave pas, non, jusqu'à ce que je sente que je peux me laver. Et quand je sens que yani, je peux me laver, non, dans ce cas, yani, je ne peux pas tricher avec Allah subhanahu wa ta'ala, je dois me laver. Ensuite, pour le mai du 6 août, je ne sais pas quoi, je vais répondre, inshallah ta'ala, très bientôt, peut-être demain, inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala m'aide, je vais répondre, inshallah subhanahu wa ta'ala. Non. Pour acheter sans peser ou bien mesurer, est-ce que c'est possible d'acheter une chose sans la mesurer ou bien sans quoi? Sans la peser. Non, c'est normal. C'est possible. Par exemple, là, il y a beaucoup ça chez nous en Algérie, je ne sais pas chez vous s'il y a. Tu trouves quelqu'un qui vend des poules vivantes. Il te dit par exemple, c'est un exemple, il te dit par exemple 5 euros la poule. Tu choisis celle que tu veux et tu la prends ou bien vivante chez toi, ou bien tu la lui donnes, tu la choisis, tu lui dis celle-là, il la prend, il l'égorge et il te la donne. Il m'a vendu une chose sans la peser. Tu trouves quelqu'un qui, par exemple, a 2 ou 3 sachets pleins d'oranges. Il me dit, par exemple, c'est 10 euros le sachet. Par exemple, il y a 5 euros le sachet. J'achète de lui sans peser. Qu'est-ce qu'il y a à l'essentiel? Entre nous et lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le consentement. Lui, il consent à me vendre ce sachet pour 5 euros sans le peser. Et moi, j'ai consenti à l'acheter à 5 euros sans le peser. Il en est de même pour les mesures. Si quelqu'un veut me vendre quelque chose sans la mesurer, il me dit cette chose-là, yani, je te la vends pourtant. C'est possible, à condition quoi? À condition que, yani, je la déroule comme ça devant moi pour la voir. Je vois à peu près. Est-ce que c'est une chose qui fait seulement 1 mètre, ou là elle fait 10 mètres, ou là, naam. Ensuite, si je suis consentant, je l'achète. Mais je ne l'achète pas sans, yani, vérifier. Pourquoi? Peut-être c'est un ruban qui me paraît qui fait 10 mètres. En l'ouvrant chez moi, je trouve qu'il fait seulement 1,5 m. Dans ce cas, il m'a trompé. Mais si devant lui, il me permet de dérouler pour voir, ensuite je choisis, non, je peux acheter comme ça. Non, pour la cinquième question, c'est pas clair. Il a dit le tawassul, etc. Des paroles, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais il n'a pas cité le texte ou la lettre ou je ne sais pas quoi, où ça se trouve. Non, il n'a rien cité. Je peux vous expliquer. Fadl, explique-moi.
En fait, le frère, il en avait déjà parlé une fois, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois. Il est tombé sur un site qui n'est pas fiable, bien sûr, qui dit, en fait, qui dit que un grand salaf de l'époque a dit que tawassul était normal, une chose normale dans l'islam. Et ça, c'est à mon avis, c'est quand on voit le site, c'est les Habesh qui ont fait ça. Ils ont mis ça, ils ont dit qu'il y a un, j'ai oublié le nom du salaf. Et le frère, il a donné le lien du site. Et Annie, il voudrait que vous lui répondiez par mail, Inch'Allah, pour avoir plus d'informations si c'est une bonne parole ou pas. Voilà, trop de la bien sûr.
D'accord, Inch'Allah, je lui répondrai par mail. Ensuite, pour ne pas oublier une chose, quand j'ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait acheter des choses comme ça, sans mesurer, etc. Et j'ai parlé par exemple du sachet. Non. Dans le sachet, il faut que je vois qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est interdit d'acheter un sachet, par exemple, un carton, où je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a, je vois avec mes yeux, ensuite si j'accepte, j'achète bi'idhnillahi ta'ala. Pour l'espacement de grossesse, c'est permis, inshallah ta'ala. Non. Les savants ont dit, il ne faut pas trop laisser yani, d'espace entre les grossesses. Pourquoi? Pour ne pas contredire le hadith qui dit que yani, ayez beaucoup d'enfants, pour que يوم القيامة يعني comme vous connaissez le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam يعني se vantera de ça sinon يعني c'est permis pour des raisons valables de faire des espacements entre les grossesses bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tafadhal.
Naam, je vous avais oublié une question, c'est la question par rapport au fait de vendre des MP3 à des lecteurs et avec les écouteurs et des vêtements aux mécréants, parce qu'on sait qu'ils vont en faire un mauvais usage. Est-ce que c'est permis? Inch'Allah. Barakallahu fikoum.
Bi'idhnillahi ta'ala, ce n'est pas permis. C'est comme si je vais vendre la télé à quelqu'un qui, je sais, il va voir des films de haram, et il va voir, ou alors je vais vendre mon MP3 à quelqu'un qui va écouter de la musique et va écouter je ne sais pas quoi. Non. Je ne vends mon MP3 qu'à quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui va, yani, écouter avec des choses qui sont halal. Bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal.
Donc, je vais lire les questions suivantes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Surat al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie. Je souhaiterais savoir quelle était l'explication du fait qu'Allah parle de la mort avant la vie. Je pensais que la vie était la condition de la mort et qu'il ne pouvait y avoir de mort sans la vie. Barakallahu fikoum. Deuxième question, salam alaikum cheikh, mon mari demande, j'habite dans une petite ville où le minhaj salafi est très 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 peu présent. Il n'y a pas de cours et je suis isolé. Actuellement je suis chez mes beaux-parents qui sont dans une grande ville où il y a beaucoup de gens du minhaj et même une mosquée salafi. Il y a des cours et je me sens bien ici et ils sont bien entourés. Donc alors je voudrais m'installer ici en attendant de faire le hijra. Car j'ai des dettes à régler. Mon problème, c'est que mes parents ne veulent pas me parler quand je les appelle pour demander. Je vais vous monter la police, on ne voit rien. Alors, pour demander de leurs nouvelles et me font des reproches à chaque fois que je voyage ou je décide de faire quelque chose. Chir, cette situation me fait. Et je voudrais tellement rester ici pour profiter des cours, d'être entouré de mes frères salafi. Je ne sais pas quoi faire car là-bas, cela ne m'apporte rien et cela m'isole. Et même en étant près de mes parents, j'ai aussi des problèmes car ils n'acceptent pas ma manière de pratiquer la religion. Question 3, Cheikh. Salam alaikum. Cela fait plus d'un an que j'ai fait l'hijra. Wallahi alhamd. La carte d'identité française de ma femme a expiré. Je voulais la renouveler au consulat de France à Alger, mais il faut une photo au visage découvert sans voile. Donc, est-ce que cela m'est permis? Sachant que l'on veut faire cette carte d'identité pour la visite de la famille et des proches parents en France, ainsi que du Hajj vu qu'en France, il n'y a pas besoin de tirage au sort. Barakallahu fikoum. Donc, ça c'est la troisième question. Quatrième question, cher, une sœur est enceinte et perd du sang. Ce sang vient de l'utérus à cause d'un décollement du placenta. Elle n'a pas fait la prière pendant quelques jours, pensant qu'elle ne devait plus la faire. Le sang coule encore souvent. La question, doit-elle prier à même avec cet écoulement de sang, doit-elle rattraper les jours qu'elle a manqués? Barakallahu fikoum. Et la dernière question, cheikh, salam alaikum. La question, c'est, mon mari est converti à l'islam. Et avant de se marier, il était chrétien. Et a eu un. Avant de se marier, il était chrétien et il a eu un enfant hors mariage avec une autre femme. J'aimerais savoir si cela devrait juste plus. Parce que franchement, voilà. J'aimerais savoir si cela devrait. Je sais pas, je comprends pas. Il n'y a pas de verbe, je comprends pas. Devrait plus tard me voiler devant l'enfant. J'aimerais savoir si par cela je devrais me voiler devant cet enfant qui n'est pas le sien, de mon mari, vu qu'il est né hors mariage et considéré comme un enfant de zina. Barakallahu fikoum. Donc ça fait 5 questions. Je vous laisse le micro, cher, trop bien.
J'ai pas entendu la deuxième barque là au fait.
D'accord, je répète la deuxième question, cher. Elle est longue, mais je vais vous la résumer, cher. Donc le frère, il dit quoi? Il dit il habite dans une ville où il n'y a pas beaucoup de frères salafis. Il n'y en a même pas beaucoup, il n'y a pas de cours. Il ne profite pas des cours parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Il est isolé. Ensuite, il dit là où il va, c'est dans une autre ville. C'est un peu plus grand, il y a beaucoup de frères salafis, c'est chez ses beaux-parents, à fond. C'est ses beaux-parents. Donc là, il y a beaucoup de frères, il y a même un masjid qui est un masjid salafi, et il y a des cours, il profite beaucoup. Il dit par contre, ses parents, ils ne lui autorisent pas, enfin, ils ne sont pas d'accord pour qu'il aille là-bas, parce que le frère, il veut s'installer là-bas, en fait. Et il dit, là, j'ai beaucoup de problèmes avec mes parents à cause de ça. On n'arrive pas à s'entendre et ils ne sont pas vraiment d'accord avec sa façon de pratiquer la religion. Voilà, chir.
Afoul Ghuraba, si j'ai bien compris. Et il demande s'il veut s'éloigner de ses parents et aller vivre seul ou là, c'est quoi?
Le frère, il dit en fait, j'ai beaucoup de problèmes, je sais pas, il sait pas quoi faire. Parce que d'une part, il n'y a rien à faire. Lorsqu'il est à côté de ses parents, il n'y a rien à faire, il ne peut pas profiter des douros parce qu'il n'y en a pas. Et en même temps, ils s'entendent pas bien. Et en même temps, il aimerait partir. Il aimerait aller là-bas dans la ville où il sent mieux avant de faire l'hijra. Parce qu'il a il a des dettes et il aimerait rembourser ses dettes et partir faire l'hijra. Et il dit, qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Il sait pas quoi faire. Soit il part et il va dans la ville, même si il doit fâcher ses parents. Ou alors non, il doit rester auprès de ses parents, même si il perd son temps là-bas. Voilà, on en est. Tfaddal ya chi.
طيب, le ghuraba, tu es là, inshallah ta'ala. Non. Je commence donc par cette question-là, la dernière du frère. Je lui dis d'essayer de joindre entre les deux tant qu'il peut, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Faire le maximum pour ne pas désobéir à ses parents et de temps en temps aller yani, dans cet endroit ou cette ville ou je ne sais pas où. Pour rester yani, quelques jours chez tes frères ou là, assister à des doros, etc. Et revenir comme ça vers les parents. Pour essayer de joindre bi'idhnillahi ta'ala entre les deux. D'un côté, il est bien avec ses parents, masha'Allah. Et de l'autre, qu'est-ce qu'il fait yani, il fait des efforts pour apprendre sa religion bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Là, pour la première question, la personne qui a demandé dans Sourate al-Mulk, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la mort, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Pourquoi il a commencé par la mort et d'après celui qui a posé la question, il a dit alors que la vie précède la mort et que d'après elle, yani, logiquement, il aurait commencé par la vie. La réponse, inshallah ta'ala, premièrement, car la mort précède la vie. Nous, on vient d'où? On vient du néant, on vient de la mort. Ensuite, il y a la vie. Donc, elle dit premièrement. Deuxièmement, car Allah subhanahu wa ta'ala veut attirer en intention sur la mort, plutôt, beaucoup plus que sur la vie. Pour que quoi? Pour que tu saches que, yani, on ne vit que pour mourir et aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, c'est la mort qui doit être la chose la plus importante entre tes yeux. Et pour toi, pour tout musulman. C'est-à-dire que je ne vis qu'en pensant à quand est-ce que je vais mourir. Je ne vis qu'en pensant à quand est-ce que je vais rencontrer Allah Ta'ala. Je ne vis qu'en pensant à quand est-ce que je vais rencontrer mon Seigneur pour que yani, voir ma place où elle sera. Ce n'est pas comme les personnes qui font yani, de la vie leur plus grand objectif. Ils ne pensent qu'à la vie. C'est pour ça que quand ils voient Malik al-Maut venir, l'ange de la mort, pour prendre leurs âmes, yani, ils restent comme ça, ébahis, étonnés, savent plus yani, quoi faire, ni quoi répondre, ni pourquoi, ils n'ont jamais pensé à la mort. Il y a des gens qui, dans leur vie, peut-être n'ont jamais pensé une fois à la mort, sauf de temps en temps, quand ça leur arrive un accident, là, ils disent, tiens, yani, on a frôlé la mort, tiens, je suis presque Non. Sinon, le musulman, le croyant, pense beaucoup à la mort, beaucoup à la mort. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a commencé par elle. Non. Ensuite, pour l'autre question, c'était quoi? La personne qui a fait la hijra ici, et que maintenant, quand elle veut renouveler sa carte consulaire ou je ne sais pas quoi, on lui demande une photo sans le voile. Je dirais que c'est très étonnant. Non, c'est très étonnant qu'on lui demande ça en Algérie, car je crois que la personne a cité l'Algérie. Non, car l'identité française. Ah, donc, si je comprends bien, dans un consulat français. Réponds-moi le roi là-bas. Le consulat, c'est le consulat français. Ah oui, d'accord. Ça. Donc, elle va voir, Inch'Allah Ta'ala. Elle va voir. Si elle a vraiment besoin de cette carte, non, que sans cette carte, elle ne fait pas le hajj, etc. Non, avant de passer à se dévoiler, elle va prendre de la fatwa qu'on a cité tout à l'heure, du passeport sans la barbe, ou hein, c'est mieux de donner un peu d'argent, si je connais quelqu'un qui peut me coller ma photo sur ma carte consulaire avec de l'argent, ce serait mieux que de me dévoiler. Mais si il n'y a pas aussi cette chose, hein, ça devient quoi? Ça reste le fait de se dévoiler si elle a vraiment besoin de cette carte. Non. Pour la femme qui est enceinte et qui perd du sang, je lui dis, le sang qui sort de la femme quand elle est enceinte ne doit pas être une entrave pour elle pour faire la prière et jeûner. Non. Le sang qui doit l'arrêter de la prière, c'est le sang qui va couler quelques jours seulement, 2 ou 3 jours avant la naissance. Et c'est le sang qui va sortir de son ventre avec des contractions. Et c'est le sang qui, lorsqu'il commence à couler, ne va pas s'arrêter jusqu'au jour où elle va accoucher. Tout l'autre sang qui sort quand elle a 6 mois, quand elle a 7 mois, quand elle a 8 mois, quand il reste 10 jours avant l'accouchement, quand il reste 15 jours, tout ce sang ne doit pas yani, l'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? C'est un sang de fesed. Ce n'est pas un sang de louche. Pour que le sang, il faut que les sœurs apprennent bien cette règle. Pour que le sang soit un sang de louche, il faut 3 conditions. La première, que ça soit seulement 2 ou 3 jours avant l'accouchement. Deuxième, que ça soit avec des contractions. C'est pas il coule tout seul. Non. J'ai mal au ventre, ensuite il sort. Troisième condition, il faut que lorsqu'il commence à sortir, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas jusqu'au jour où j'accouche. Donc je dis à cette sœur qu'elle doit rattraper les jours où elle n'a pas prié. Où elle n'a pas prié à cause de ce sang. Enfin, la dernière question, pour la personne reconvertie qui a dit que elle s'est mariée avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, autrefois, avait un enfant, un garçon, hors mariage. Elle dit, est-ce que cette femme, maintenant, doit se couvrir devant l'enfant de cet homme ou elle ne doit pas? Je lui réponds tout simplement que cet enfant, n'est pas l'enfant charaï de cet homme. Chez Allah Ta'ala, cet enfant n'est pas son fils. Et cet homme n'est pas son père. C'est seulement un père biologique. Parce qu'il a été créé de son eau. De l'eau de cet homme, c'est tout. Mais il n'y avait pas Bismillah, il n'y avait pas l'aqd. Il n'y avait pas l'aqd shara'i. C'est pour cela que, cet enfant, c'est un enfant de zina. Et elle doit se couvrir devant lui. Reste une chose. Sauf quoi? Sauf si cet homme était marié avec, quand il est chrétien, il était marié avec la chrétienne. Marié à l'église, etc. Et ils ont eu cet enfant. Dans ce cas, cet enfant, c'est leur enfant. Car l'islam reconnaît le mariage des kofars s'il est fait légalement. Et s'il reconnaît le mariage, il reconnaît leurs enfants. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais, jamais dans sa vie demandé à un kafir qui est rentré en islam d'aller refaire l'acte de mariage. Pourquoi ? Son acte de mariage est légal. Mais si cet homme-là ne s'est pas marié avec la chrétienne quand il était chrétien, c'était seulement une mamie. Il a eu sept enfants, c'est un enfant de zina, donc cette femme doit se couvrir devant lui. Mais s'il était marié à l'église, et que cet enfant, il l'a eu après ce mariage, donc c'est un enfant qui est son vrai fils, dans ce cas, elle ne se voile pas devant lui. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer samedi, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته